D'habitude, quand on garde une radiographie médicale, on s'attend à un truc super net, genre une précision presque chirurgicale.
Ouais, c'est vrai, c'est censé être assez binaire au final.
Exactement. Une ligne blanche sur le cliché, et hop, c'est une fracture. C'est visible, c'est documenté, et le diagnostic tombe de manière implacable. L'esprit humain adore ça, pouvoir ranger un problème physique dans une case bien définie pour y appliquer un protocole.
C'est rassurant, oui. Sauf que, ben, cette clarté clinique, elle disparaît complètement dès qu'on dézoome un peu, dès qu'on essaie d'observer l'écosystème de santé dans sa globalité, en fait.
Ah oui, à l'échelle d'une nation entière.
Tout à fait. Là, l'image devient floue. Les certitudes s'effacent pour laisser place à un paysage super complexe, rempli de variables invisibles et de dynamiques contradictoires.
Bah, c'est une métaphore parfaite pour notre analyse d'aujourd'hui. L'objectif de cette plongée, c'est de mener l'enquête sur le système de santé marocain. C'est un secteur qui est actuellement traversé par des bouleversements majeurs.
Et pour ça, on a une base solide.
Ouais, on s'appuie sur une source documentaire vraiment riche. C'est le numéro hors série IMAG, une édition spéciale consacrée au Morocco Medical Expo 2026. Ce dossier, il a été édité par l'ODG Média.
C'est une publication du groupe Arisala, SA, dirigée par Adnan Ben Chakroun, c'est bien ça?
C'est ça. Mais au-delà de ce magazine, notre analyse intègre aussi une série de données analytiques assez frappantes, je dois dire. Les bilans de performance du groupe L'ODG sur les réseaux sociaux pour le premier trimestre 2026.
Et la combinaison de ces deux sources, en fait, elle offre un contraste saisissant. D'un côté, on a l'image qu'une industrie souhaite projeter d'elle-même lors d'un grand événement professionnel.
Une vitrine, quoi.
Exactement, une vitrine destinée aux spécialistes. Et de l'autre côté, on dispose de statistiques brutes qui révèlent comment la population consomme, disons, frénétiquement du contenu lié à ce même secteur médical.
C'est ça qui est dingue. Ça permet vraiment de mesurer la distance entre l'ambition technologique et les préoccupations réelles des citoyens.
Oui, parce que le but ici, c'est pas juste de lire une plaquette commerciale.
Bon, décortiquons tout ça. Il faut d'abord poser le décor de ce fameux Morocco Medical Expo 2026. En lisant les rapports, l'atmosphère décrite, bah, ça relève presque du scénario de science-fiction.
Ah ouais, carrément.
Ah mais oui! On y parle d'hôpitaux gérés par des algorithmes, de robots chirurgicaux, de télémédecine intégrée, et même d'intelligence artificielle capable de trier les patients.
Rien que ça.
Et le grand mot d'ordre qui circule dans les allées du salon, c'est la souveraineté sanitaire. L'idée affichée est claire. Le pays ne veut plus se contenter d'importer des solutions, il veut les produire, les intégrer et maîtriser toute la chaîne.
Et le document mentionne aussi des panels de discussion très précis sur ces sujets, non?
Oui, il y a des débats pour savoir si l'IA et la robotique prendront un jour la place du médecin, et aussi des conférences très pointues sur la prévention des maladies rénales.
Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est l'avertissement que la source elle-même formule face à cet étalage d'innovation. L'éditorialiste de l'ODG Média souligne un paradoxe fondamental.
Lequel exactement?
Bah, la technologie, c'est un levier de transformation puissant. Par exemple, l'IA peut croiser des millions de données pour affiner un diagnostic oncologique. Et des puces RFID peuvent assurer la traçabilité des médicaments pour éviter les ruptures de stock.
Sur le papier, la mécanique théorique est parfaite.
Exactement. Sur le papier, cependant, le risque identifié par l'article, c'est de sombrer dans ce qu'ils appellent l'illusion de progrès.
Ah, cette fameuse illusion de progrès, ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. C'est un peu comme installer un système domotique ultra sophistiqué avec commandes vocales et reconnaissance faciale dans une maison,
Ouais.
mais une maison dont les fondations s'affaissent et dont la toiture fuit à la moindre averse. Le thermomètre connecté va t'afficher la température exacte avec une précision redoutable, mais bah, il va pas réparer tes murs humides.
C'est une excellente image.
Ben oui! Comment des logiciels d'optimisation de flux peuvent-ils résoudre le problème d'un hôpital qui, à la base, manque cruellement d'infirmiers pour simplement enregistrer les patients à l'accueil?
Ton analogie de la maison aux fondations fragiles capture parfaitement la mécanique du problème. Une application mobile pour prendre rendez-vous, c'est fluide, mais ça ne génère pas de nouveaux médecins par magie.
C'est clair.
Et une plateforme de téléconsultation, à un moment donné, ça nécessite une intervention physique si une pathologie lourde est détectée. L'accumulation d'outils numériques ne remplace en aucun cas, l'architecture humaine de la médecine.
Donc un hôpital super équipé avec les derniers capteurs, c'est pas forcément un hôpital performant.
Pas automatiquement, non. La technologie accélère les processus. Mais si le processus initial est défaillant, elle ne fera qu'accélérer la défaillance. Ça ne guérit pas les déserts médicaux.
Et cette défaillance structurelle, ça nous mène directement au cœur de notre analyse. Quand on gratte ce vernis technologique, la source décrit une santé marocaine qui est fracturée.
Historiquement, c'est vrai qu'on a souvent résumé ça à une opposition assez basique, le public contre le privé.
Ouais, le système public, vu comme un géant saturé, et le privé perçu comme un îlot de luxe. Sauf que le document rejette cette binarité. On fait face à une médecine à de multiples vitesses.
Comment ça se traduit concrètement ?
Le secteur privé urbain, par exemple, ne vend pas seulement un acte médical technique. Il vend de la logistique, des délais d'attente compressés, une certitude sur l'heure du rendez-vous et une forme d'apaisement psychologique.
C'est vrai que la prévisibilité est devenue la marchandise la plus précieuse dans le parcours de soins. Les patients achètent du confort.
Sauf que si on regarde la carte globale, cette prévisibilité disparaît totalement dès qu'on s'éloigne des grandes métropoles. Il y a une vraie ségrégation territoriale documentée dans le dossier.
Oui, les grands bassins urbains face aux zones rurales ou périphériques.
C'est ça. Faire une IRM d'urgence à Casablanca, c'est une simple transaction financière. Mais faire ce même examen la nuit dans une province rurale, ça devient une expédition logistique de fou, avec des transports hyper longs.
Donc la distance géographique se transforme instantanément en perte de chance face à la maladie.
Exactement. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'argent et la géographie sont des barrières tangibles. On comprend facilement le blocage. Mais la source introduit un concept bien plus subtil.
Ah oui, le système décrit comme un labyrinthe.
Voilà. Si on analyse un labyrinthe, le problème principal, c'est pas la force physique du gars qui marche dedans, c'est sa capacité à lire le plan. En quoi le manque d'information devient une inégalité au même titre que l'argent ?
Eh bien, cette notion d'inégalité informationnelle, c'est la clé de voûte des dysfonctionnements modernes. Naviguer dans ce système, c'est un peu comme tenter de déchiffrer un contrat juridique complexe sans l'aide d'un avocat.
Ouais, faut avoir les codes. Hein.
C'est ça. Ceux qui maîtrisent les rouages de l'administration sauront exactement quel spécialiste consulter en premier. Ils sauront comment activer les bons leviers pour optimiser leur remboursement.
Savoir à qui s'adresser, ce qui est remboursé, c'est vital.
Et ils sauront surtout quels établissements ont le matériel adéquat et en état de marche. Leurs compétences sociales et informationnelles réduisent drastiquement leur temps d'errance.
Et à l'inverse, la personne qui n'a pas ces codes d'accès va multiplier les consultations inutiles. Elle va refaire des prises de sang parce qu'elle n'a pas été bien orientée, accumuler de la fatigue psychologique.
Se heurter à des murs administratifs, oui.
Pour finalement, dans plein de cas, juste renoncer aux soins. Le manque de lisibilité, c'est un filtre silencieux qui trie les patients non pas sur l'urgence médicale, mais sur leur capital d'information.
Et ce filtrage silencieux, il fragilise complètement la confiance collective. La source insiste d'ailleurs fermement là-dessus quand elle parle de la relation publique-privée.
C'est-à-dire ?
Même si le privé capte une grande partie de cette demande de confort, l'ossature de la nation, ça reste le système public. Lors d'urgences de masse ou de crises sanitaires majeures, c'est toujours le socle public qui encaisse et détermine la résilience du pays.
C'est vrai qu'on l'a bien vu ces dernières années.
D'où le danger en fait d'un secteur privé qui aspirerait toute l'offre. Le marché privé n'est structurellement pas conçu pour la gestion de crises globales qui n'est pas rentable.
Bon, face à ce labyrinthe et à ces fractures territoriales, l'État n'est pas immobile non plus. Le dossier consacre une sacrée analyse au vaste chantier de réforme gouvernementale en cours.
Ah oui, la réforme est massive.
Hein. Ouais. On y note la généralisation de la couverture médicale et une hausse très nette du budget de la santé pour l'année 2026. Il parle aussi de l'activation d'une commission de pilotage qui s'est réunie à Rabat le 7 janvier 2026.
Ce qui prouve que l'État maintient le cap et assure le suivi opérationnel.
Exactement. Et même la Banque mondiale, dans un rapport de fin 2025, jugeait la mise en œuvre de ces réformes modérément satisfaisante. Ce qui, dans le jargon de la finance internationale, est plutôt pas mal.
Oui, l'injection massive de capitaux est indéniable. L'augmentation des budgets montre une volonté claire d'aligner les ressources sur les ambitions.
Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement ? On peut acheter le meilleur engrais du monde, tu vois, mais si on le jette sur une terre aride sans système d'irrigation, rien ne poussera.
C'est tout le défi de la transmission, oui.
Comment transformer cet argent neuf et ces nouveaux organigrammes en amélioration réelle pour le patient ? Comment les milliards peuvent-ils ruisseler jusqu'à la salle d'attente ?
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, le véritable crash test de cette réforme, ce n'est pas le budget voté au Parlement, c'est son ancrage territorial. La santé doit être lisible sur le terrain.
Et ça passe par quoi, selon le dossier ?
Ça passe parce que le magazine qualifie brillamment de « métiers invisibles ». L'attention médiatique se focalise toujours sur les médecins ou l'achat de machines spectaculaires. Ça, c'est la vitrine.
Mais les robots dont on parlait au début ?
Voilà. Mais la machinerie d'un hôpital repose sur des professions souvent ignorées. On parle des ingénieurs biomédicaux, des techniciens de maintenance, des logisticiens spécialisés.
Oui, c'est une mécanique implacable. Un scanner dernier cri à plusieurs millions de dirhams, ça nécessite des étalonnages réguliers, des mises à jour, des changements de pièces.
Exactement. Sans le technicien certifié pour effectuer cette maintenance préventive, ta machine, elle tombe en panne au bout de quelques mois. Et soudain, ton innovation technologique devient un simple meuble coûteux qui prend la poussière au fond d'un couloir.
Ce qui oblige le patient à faire 100 km pour trouver un autre hôpital. C'est fou.
La défaillance d'un seul de ces maillons invisibles paralyse la chaîne entière. La mesure du succès de la réforme sera la capacité du système à former et retenir ses techniciens de l'ombre.
Et cette conscience des dysfonctionnements plus cette quête d'informations pour survivre dans le labyrinthe dont on parlait, ça explique un phénomène statistique assez stupéfiant révélé par notre seconde source.
Les fameux chiffres d'audience de l'ODG Média ?
C'est ça. Les bilans digitaux du premier trimestre 2026 donnent le vertige. Pour un média qui se positionne sur la jeunesse et la santé, écoute ça. Ils ont touché plus de 100 millions de personnes.
100 millions, waouh, c'est gigantesque.
On compte 67,23 millions de vues globales. Ça représente une hausse spectaculaire de 378,7%. Et sur Instagram, c'est l'explosion. Plus 53,4%, avec 34,8 millions de vues.
Et sur les autres plateformes, ça donne quoi ?
Facebook se consolide, YouTube enregistre une baisse de 40,2% des vues, mais reste très fort en acquisition d'abonnés. Et TikTok montre un petit fléchissement. L'écosystème digital est en ébullition totale autour de ce contenu.
Ces volumes imposent vraiment une relecture de ce qui intéresse le public, en fait.
Mais le plus révélateur, c'est la nature du contenu. Leur format phare, c'est Tesahilaf Stand, ce qui veut dire en gros une balade dans les stands.
Une balade dans le salon médical ?
Ouais. Ils se baladent dans les stands du salon B2B et interviewent des acteurs hyper spécialisés. Par exemple, des invités comme Walid Nightby de l'entreprise Reacting ou Frank Fannen de Yamen Biotime Biotechnology.
Des industriels qui parlent de biologie médicale et de dépistage rénal, en gros.
Et ça cartonne. Pourquoi une couverture d'un salon professionnel médical B2B fait-elle autant de buzz qu'un influenceur lifestyle ? Je veux dire, d'ordinaire, c'est réservé aux directeurs d'achat des cliniques, ces trucs-là.
Cela soulève une question importante, sur la psychologie collective, justement. L'explication, selon l'analyse, réside dans l'évolution du statut de la santé au sein de la société. Ce n'est plus une simple question clinique.
Cantonné aux hôpitaux et aux experts en blouse blanche ?
Exactement. C'est devenu une équation de pouvoir d'achat, un sujet de société centrale. Le grand public regarde ces vidéos parce qu'il cherche désespérément à comprendre ce fameux labyrinthe sanitaire.
Un labyrinthe qui décide de la vie ou de la mort de ses proches, littéralement.
C'est une démarche d'investigation. En écoutant un industriel parler d'IA, le citoyen cherche des indices. Il essaye de deviner si demain il devra payer de sa poche pour accéder à ces nouvelles technologies.
Donc c'est vraiment un réflexe de survie sociale face à l'opacité du système.
Plus le système semble vaste et technologique, plus le besoin de s'informer à la source devient vital, oui.
Bon, on arrive à une vue d'ensemble très nuancée. Le Maroc avance indéniablement, les budgets sont là. L'innovation avec l'IA et les robots est bien exposée, le secteur privé est de niveau mondial.
Tout à fait, la modernisation est en marche.
Mais le véritable défi, c'est d'éviter qu'une santé technologiquement avancée ne soit socialement inégalitaire. L'enjeu est d'empêcher que la médecine du futur ne devienne une enclave ultra-technologique entourée par un désert sanitaire.
Le constat final est implacable. La santé d'une nation se juge sur le terrain, pas sous les projecteurs. Et dans le prolongement de cette réflexion, il y a une piste inédite qu'on pourrait soulever pour clore cette session.
Ah, le terrain des hypothèses, j'adore. Quelle est cette perspective provocatrice pour la fincaille ?
Eh bien, la source mentionne que l'intelligence artificielle et la data santé sont de plus en plus utilisées pour faire la maintenance prédictive sur les machines hospitalières.
Ouais, anticiper la panne matérielle avant que la machine ne casse.
C'est ça. Mais pourrait-on imaginer utiliser cette même intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive sociale ?
Attends, de la maintenance prédictive sociale, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire croiser les données démographiques, les registres de l'ordre des médecins, l'évolution des maladies, et utiliser les algorithmes pour anticiper la création des déserts médicaux bien avant qu'ils n'apparaissent.
Ah ouais ? L'algorithme lancerait une alerte rouge en disant que telle région rurale va perdre son seul médecin dans 2 ans, par exemple.
Exactement. Et ça permettrait à l'État de contraindre ou d'inciter la répartition équitable des médecins sur le territoire en amont. Utiliser la puissance de calcul non pas pour une machine rentable, mais pour garantir l'équité.
Ou alors, la technologie restera le privilège exclusif des cliniques les plus rentables. C'est un sujet de méditation vraiment puissant pour clore cette session. Ça repousse complètement les limites de ce qu'on peut attendre de l'innovation.
Ça redéfinirait carrément le contrat social de demain.
Complètement. C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde bien après cette analyse.